Bonjour Maryse Burgot.
Bonjour.
Voilà 30 ans que vous passez votre vie loin de chez vous, comme le titre de votre livre, puisque vous êtes grand reporter pour France Télévisions et Fille de Paysan, c'est ce que vous indiquez en sous-titre. Ce qui veut dire, écrivez-vous, que rien ne vous prédestinait à parcourir le monde pour remplir cette mission d'information. Est-ce qu'avoir bousculé ce déterminisme social n'est pas une des choses dont vous êtes le plus fier aujourd'hui ?
Oui, je crois, oui. En tout cas, c'est ce dont j'ai beaucoup envie de parler, oui. Mon livre raconte beaucoup ce que c'est que le grand reportage. Il raconte aussi ce que c'est que de réaliser ses rêves quand on n'est pas né dans un milieu très privilégié.
Ce livre se lit comme un roman d'aventure, même si on est loin d'être dans l'aventure. Hein. C'est pas de la fiction. Vous y comptez effectivement vos missions en Irak, en Haïti, en Ukraine, en Inde, la prise d'otages que vous aviez eu à subir en 2000 dans la jungle de Jolo aux Philippines. Mission en France aussi, par exemple, dans les EHPAD, notamment pendant la crise de la Covid. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter tout ça et d'ouvrir un peu les coulisses de votre métier ?
C'est une bonne question parce que pendant plusieurs années, des éditeurs m'ont contacté en me disant « Mais vous devriez écrire. » Puis alors je balayais d'un revers de main à chaque fois, puisque le métier de journaliste, c'est de parler des autres et pas de parler de soi, vous voyez. Donc bon. Et puis l'été dernier, un éditeur m'a contacté et je ne sais pas pourquoi cette fois je l'ai écouté, je l'ai vu. Et puis je me suis dit « Ah oui, bon, je peux peut-être essayer. » Et en fait, c'était agréable de revoir toutes ces choses qui commencent à dater, de me replonger dans ces reportages. Ça fait 30, 35 ans maintenant que je fais du reportage, donc on oublie plein de choses. Et j'ai aimé cet exercice. Et j'aime écrire, de toute façon, j'ai toujours aimé écrire. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est le moment pour moi, je crois, de transmettre ce message. Tout est possible. Hein. Tout est possible, même si on n'a pas le sentiment d'être né tout à fait au bon endroit.
Ça vous y tenez. Hein.
Oui.
Vous êtes grand reporter, mais vous êtes aussi maman de deux garçons. Votre objectif est aussi de montrer que ce métier, justement, de vadrouille et de danger n'est pas incompatible avec celui de mère de famille.
Oui, journaliste fait partie de ces métiers où c'est difficile de concilier les deux, mais c'est possible. Hein. C'est possible. Et moi, je dis même que c'est ma chance d'avoir eu des enfants, parce que quand je rentre de missions difficiles, et elles sont parfois très difficiles, je retrouve un monde normal et je n'ai pas le temps d'avoir des états d'âme.
Est-ce que c'est pour ça aussi, parce que vous avez des enfants, que vous avez à un moment posé un peu vos valises quand vos fils étaient vraiment tout petits, en devenant correspondante de France Télé à Londres, puis à Washington ?
Oui, oui, tout à fait, parce que j'allais déjà sur les zones de guerre, sur les zones de conflit. Et les enfants étaient des bébés, enfin tous les deux. Hein, et
des deux garçons, hein, Angelo et Noé.
Deux garçons. Il fallait que je fasse une pause. Donc on a passé 10 ans en expatriation et les enfants ont grandi. Et quand je suis rentrée, bon, je me suis dit, ah, je vais peut-être pouvoir repartir. Avant, j'ai fait un petit détour par l'Élysée. J'étais chargée du suivi de l'Élysée. Ouais.
Comment est-ce que vous évitez la manipulation quand vous êtes sur des terrains compliqués ? Vous le racontez dans le livre, parfois vous êtes sous la protection entre guillemets de l'armée qui vous empêche en même temps d'aller où vous voulez, comme vous voulez. Comment vous faites donc pour passer outre et pour protéger aussi vos sources ? Vous parlez beaucoup des fixeurs dans le livre, hein, ces personnes qui font en quelque sorte l'intermédiaire.
C'est un combat, hein. C'est vraiment un combat ça, de ne pas se laisser manipuler, de garder son libre arbitre, de décider de l'endroit où on va et de ne pas laisser les autres décider pour nous. Et c'est vrai qu'en terrain de guerre, et c'est vrai pour toutes les guerres, chaque camp tente de masquer ses pertes. C'est la manière dont ça fonctionne et c'est à nous, journalistes, de contourner les interdits, de ne pas se laisser faire. Je livre des combats dantesques contre des commandants en Ukraine, par exemple. Pendant 2 jours, je refuse d'aller dans un endroit où on me dit qu'il faut aller. Je dis non, parce que je veux aller là, dans cet autre endroit. Ils finissent par céder. Parfois, ils ne cèdent pas, mais je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse plus faire.
Comment est-ce que vous gérez également la peur, le danger ? Vous parlez de votre détresse et de ce que vous viviez comme une humiliation pendant que vous étiez otage aux Philippines, mais aussi toutes ces fois où quand même vous avez échappé à des tirs, à des éclats de bombes, à des mines antipersonnelles aussi. Le danger, comment vous le gérez ?
On apprend à gérer le danger. On a des stages, par exemple, hein, un peu des stages commando. Bon, après, il n'y a pas de manuel du reporter de guerre. Hein. J'ai toujours un caméraman, un monteur, un fixeur, celui qui fait les traductions et qui nous aide à caler les sujets. On est plusieurs, on décide à plusieurs et on a cette tension à plusieurs. On avance, on recule, on décide ensemble. Quand quelque chose arrive, comme un obus de mortier qui tombe juste à côté de vous, il faut prendre la bonne décision, point. Et la peur n'a pas de place, en fait. La peur, elle peut venir après, dans sa chambre d'hôtel le soir, où on se dit, voilà, je l'ai échappé belle. Mais sur le coup, il y a beaucoup de pression. Mais si j'étais traumatisée par quelque chose, je pense que je ne partirais plus. C'est vrai que Jolo, la prise d'otage, c'est quelque chose qui était très marquant. Mais voilà, j'ai tourné cette page relativement facilement. Mais non, je n'ai pas de traumatisme. Alors peut-être qu'un psy vous dirait, mais si, elle a des traumatismes, évidemment. Mais moi, je trouve que non. C'est ma force aussi de pouvoir un peu tourner des pages. Il faut, sinon je repartirai jamais.
La voiture, quand on est grand reporter, c'est parfois un véhicule de survie, quand on doit fuir au plus vite une zone de danger. Et ça a été votre cas d'ailleurs sur certains terrains de guerre. Je pense à l'Ukraine. Vous avez été visé un jour par un tir de mortier.
Oui, un obus de mortier tombé vraiment tout près de nous. Et là, il n'y a qu'un moyen de survie, c'est se jeter dans la voiture. Et on avait un chauffeur et pied au plancher, dans des routes totalement défaussées parce que les chars défonce toutes les routes en Ukraine parce qu'ils sont très lourds et les chenilles, ça casse tout. Et lui, il roule comme un fou parce qu'on sait qu'on a été visé par les Russes, sans doute exprès parce qu'il y a écrit « presse » sur notre voiture. Et on sait qu'il va y en avoir un deuxième. Il faut vraiment partir. La voiture, c'est notre survie là. On est vivant parce qu'on avait une voiture.
Et là, petite parenthèse, pas qu'une parenthèse, votre fils vous appelle pour vous demander comment on fait cuire le riz.
Oui,
vous lui répondez.
J'avais mon téléphone dans mon gilet pare-balles. On roulait comme des fous sur cette route pour échapper à ces obus de mortier. Mon téléphone sonne et je vois que c'est mon fils. Et moi, je réponds toujours quand ce sont les enfants. Et il me dit, comment est-ce qu'on fait cuire le riz, maman, déjà, là, tu sais, pour que ce soit bon comme au resto. Et là, en une fraction de seconde, je me dis... Je ne sais pas ce que je me dis, mais je ne lui parle pas trop fort parce que je ne voulais pas que le reste de mon équipe m'entende et je lui explique comment on fait le riz. Et c'est ça, la vie de reporter. Vous êtes en danger, mais vous avez cette chance d'avoir votre vie ailleurs. Et moi, en l'espace d'une fraction de seconde, j'étais dans ma cuisine ici avec mon fils en train de faire le riz, quoi. Et ça me sauve d'une certaine manière. Ça me sauve, hein. Et le riz, ce soir-là, était très bon à la maison, paraît-il.
Je reviens au véhicule. Quel est le véhicule le plus incongru dans lequel vous avez voyagé lors de vos reportages?
Ah, j'en ai fait des véhicules, moi. Je sais pas, j'ai le souvenir d'un tracteur poussif au Kosovo. Et on était juchés sur ce tout petit tracteur-là. C'est comme ça qu'on est rentrés clandestinement au Kosovo. Mais j'ai fait de la moto, j'ai fait du vélo, des charrettes à bœufs en Inde...
Et dans votre vie en France, est-ce que vous conduisez ?
Oui, je conduis, mais pas énormément. Je vais beaucoup en Bretagne chez mes parents, en voiture, souvent, mais je ne conduis pas énormément. Alors, je vais faire une confession, hein. J'avais perdu 6 points. Parce que, non pas du tout que je conduise vite, mais quand je fais Paris-Meudon, j'habite à Meudon, il y a un endroit où il faut rouler à 50. Je roulais toujours à 53, à 55, là, là. Donc j'ai fait un stage.
De récupération de points ?
Ouais. Et alors, pour moi, ça a été une révélation, le stage. C'est-à-dire que moi, j'avais quand même transformé ma voiture en bureau. Hein. J'étais pas avec le téléphone dans la main, mais enfin, j'étais toujours en train de négocier des rendez-vous au téléphone, avec le téléphone posé à côté. J'étais peu vigilante. Et j'ai vraiment réalisé, en faisant ce stage, que j'étais pas une bonne conductrice. Et vraiment, c'était une leçon. Et depuis, je ne conduis plus en faisant autre chose.
Quelles sont vos relations avec vos confrères et consœurs des autres médias français et étrangers? Est-ce que dans une situation de tension, il y a de la concurrence parce qu'il faut arriver le premier sur place, il faut trouver le bon interlocuteur, le meilleur angle? Ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de solidarité, de confraternité?
Alors, ce n'est pas le monde des bisounours, donc oui, il y a de la concurrence, même sur les zones de conflit. Mais quand il y a du danger, quand quelqu'un a un problème, il n'y a plus de concurrence. On se donne les bons tuyaux pour la protection, ouais. Ça, c'est très important. Mais il y a de la concurrence, bien sûr. On est en frontal, nous, avec TF1. Donc, ce serait totalement faux de dire qu'il n'y a pas de concurrence. Et moi, j'ai un peu l'esprit de compète, je dois dire.
Est-ce que ce métier, justement, à votre avis, fascine toujours autant?
En tout cas, je pense qu'avec l'Ukraine, quelque chose a un peu changé. Moi, ça fait longtemps que je fais cela. Mais c'est seulement à partir de l'Ukraine qu'on a commencé à me dire « merci d'aller sur les zones de guerre, merci de prendre des risques et tout ça ». Et franchement, on me le disait très peu avant. C'est étonnant. Ça pose question d'ailleurs. Pourquoi seul le conflit en Ukraine a suscité cet élan, vous voyez ? Mais c'est bien parce que Les gens ne nous font pas forcément confiance à nous, les journalistes, et donc on doit gagner leur confiance et être le plus objectif possible. Et c'est ça que j'aime, moi, dans le métier que je fais. Moi, je ne suis pas éditorialiste, commentatrice. Je vais dans des endroits, je vois des choses et je rapporte les faits. Point à la ligne.
Et ensuite, le téléspectateur se fait son idée, ça vous le dites beaucoup.
C'est bien déjà de faire ça.
Quel est votre meilleur souvenir de reportage, Maryse Burgot ?
C'est difficile, ouais. Moi, je crois que je vais parler à nouveau de cette dame en Ukraine. Vous savez, c'est compliqué pour nous, les journalistes, de trouver des angles nouveaux à chaque fois. Parce que ça fait 2 ans et demi que ça dure, cette guerre, et que nous y allons. Moi, j'ai fait 13 missions en Ukraine, des sujets, j'en ai fait. Et il faut chercher une histoire nouvelle, parce que les téléspectateurs se lassent sinon. Et donc, on cherche des angles. Et un jour, mon fixeur m'a dit « Oh, il paraît qu'il y a une dame, elle habite à Izium, qui était une ville qui a été à un moment occupée par les Russes. Eh bien, il paraît que cette dame, elle a caché chez elle un soldat ukrainien pendant 5 mois. » Il me dit « Bon, je ne sais pas si c'est bien. » Et je lui dis « Ah si, ça doit être bien, ça. » Ce soldat ukrainien, en fait, il avait été torturé par les Russes pendant plusieurs jours. Et quelqu'un a dit « Bon, allez, on en a marre de lui, tu l'achèves. » Et le soldat russe ne l'achève pas. Et il tire en l'air et il lui dit « Allez, casse-toi maintenant. » Et donc l'homme, le soldat ukrainien, rampe et se retrouve dans le jardin de cette vieille dame. Et elle le trouve, blessé, quasi mourant. Elle se rend compte que c'est un Ukrainien parce qu'il lui dit « Sauve-moi », mais en ukrainien et avec un accent qui n'est pas l'accent des Russes. Donc elle se dit « Il est ukrainien ». Elle l'aide à se lever, elle l'emmène dans sa cave, elle le cache pendant 5 mois. Elle le soigne, elle le nourrit. Et au moment de la reprise d'Izium, il y a des bombardements très forts, puisque les Ukrainiens cherchent à reprendre cette ville envahie par les Russes. Et elle est terrorisée. Et là, c'est lui qui la protège dans la cave et qui lui dit « T'inquiète pas, on va s'en sortir ». Donc nous, on passe une journée avec cette dame, qui est une juste d'une certaine manière, comme l'étaient les gens qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle prend les risques insensés pour sa vie, parce que si les Russes avaient su qu'elle avait dans sa cave un soldat ukrainien, elle aurait été tuée sur le champ. Et elle fait un geste d'humanité au milieu de la barbarie la plus grande. Et quand on la rencontre et qu'on fait ce reportage, on sort, nous, de reportages très durs où on avait vu des choses qui vous font douter de l'humanité. Et là, je me dis, ah, en fait, si, l'espoir, c'est possible. Quand je vois cette dame, et puis alors à la fin de la journée, elle nous dit, oh, vous allez bien rester manger un borscht. Alors le borscht, c'est cette soupe ukrainienne. Très bonne. J'ai jamais mangé un aussi bon borscht de toute ma vie. On était là dans cette toute petite maison de briques et de brocs de cette vieille dame au fin fond du Donbass à Izium. Il faisait un froid de gueux, je me souviens, et c'était un moment extraordinaire. Jamais je n'oublierai cette dame. Jamais.
Merci beaucoup, Maryse Burgot, de nous avoir livré quelques bribes de la vie assez extraordinaire quand même qui est la vôtre. Loin de chez moi, c'est édité chez Fayard. Merci et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie et bonne route alors à tous et à toutes.